Mesdames, messieurs et les autres, bienvenue en ce mercredi 11 mars à PsyBL reçoit pour un Québec apprenant, une émission mensuelle qui est faite en partenariat avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, communément appelé ICEA. Guillaume Touzelbonde, désormais avec vous à la réalisation comme à l'animation, ça me fait très plaisir d'être là. Aujourd'hui, ben, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, c'est une émission mensuelle, donc elle est toujours chargée en contenu et on aime ça comme ça. En toute fin d'émission, un reportage, Alexis Gacon s'est rendu à la journée Convergence de la formation générale des adultes du 27 février dernier qui avait lieu à l'UQAM. En fait, on va chercher à savoir quel message transmettre au gouvernement en vue d'une nouvelle politique québécoise en éducation et en formation des adultes. Également une entrevue avec Laurence Buener, qui est coordonnatrice par intérim du programme en alphabétisation du Syndicat canadien de la fonction publique. On va parler du Fonds canadien pour l'emploi du gouvernement fédéral qui, selon le SCFP, est un recul pour les travailleurs les plus vulnérables. En quoi c'est un recul d'une part? Et personnellement, j'étais curieux de savoir comment ça se fait qu'un syndicat aborde des enjeux d'alphabétisation et d'apprentissage. Donc, on va en discuter plus tard avec Laurence Buener, qu'on va rejoindre en direct d'Ottawa. En première demi-heure, entrevue, encore une fois, avec Mélanie Marcellet, qui est directrice générale du regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage. On parle de décrochage, bien sûr, mais voyons-le de façon peut-être plus positive. Aussi, on va parler de raccrochage des adultes en devenir, apprenants, bien sûr, et on va malheureusement devoir parler d'instabilité économique, évidemment, le spectre de l'austérité, on en entend parler abondamment. Et quels impacts ça pourrait avoir sur la persévérance scolaire? Ben, on va voir ça dans quelques minutes, mais tout d'abord, comme à notre bonne habitude, on reçoit Emmanuel Béguineau de l'ICEA pour une revue de presse, les nouvelles qui ont été retenues donc par Emmanuel, qui concernent les enjeux qu'on aborde ici à l'émission habituellement, les adultes apprenants, les milieux d'apprentissage, etc. Donc, restez avec nous et merci d'être là. En compagnie donc d'Emmanuel Béguineau, qui aide grandement à la réalisation de cette émission, également chargé de projet à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Emmanuel, merci d'être avec nous encore une fois.
Ben, merci à toi, Guillaume, et bonjour à tout le monde.
Bonjour à tout le monde. Ben oui, merci de nous écouter. C'est très apprécié, bien sûr. Bon, les nouvelles qu'on a retenues, ben tout d'abord, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a un nouveau ministre de l'Éducation au Québec.
Exactement. On se souvient justement que M. Yves Bolduc a donné sa démission et a quitté ses fonctions de ministre de l'Éducation il y a quelques jours, suite à la controverse qu'il avait suscitée avec ses propos sur la fouille à nu dans les écoles québécoises.
Une habile citation de sa part.
Encore une autre. Et il est remplacé donc par M. François Blé, qui était l'ancien ministre responsable de l'emploi et de la solidarité sociale, et qui auparavant était doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université Laval. On va dire qu'au moins, il y a un rapport avec l'éducation cette fois-ci. Alors, il y a de nombreux et des épineux dossiers qui attendent de M. Blé. Et bon, ce n'est pas une nouvelle qui soit arrivée, on le sait depuis quelques jours, mais justement, l'ICEA voudrait profiter de cette tribune et de sa nomination pour lui rappeler que la politique gouvernementale en éducation des adultes et en formation continue a besoin d'un nouveau souffle. Ça fait des années, justement, que les différents acteurs qui y contribuent souhaitent un renouvellement. Alors, M. Bolduc avait dit qu'il en fera un dossier important et on espère qu'il en sera de même avec M. Blé. Donc voilà, le message est passé.
Et on espère que M. Blé nous a entendu ou que quelqu'un lui fera le message, du moins. Contradiction libérale du côté de la formation continue. En fait, il y a des professionnels qui critiquent un peu ça.
Oui, exactement. C'est une critique qui vient du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec qui dénonce le double discours du gouvernement Couillard en matière de renforcement de l'expertise de la fonction publique. Hein, on demande à nos fonctionnaires d'être performants et pour ça, ça demande quand même aussi des mises à niveau, des formations de temps en temps. Et en fait, dans ce climat d'austérité ambiant, le gouvernement du Québec a décidé de réduire le temps alloué à la formation à ses fonctionnaires. Normalement, s'il est vrai que ailleurs, c'est le 1% de la masse salariale donc qui est attribué justement à cette formation. Or, le syndicat, dans sa convention collective, avait un 3%, ce qui signifiait à peu près 2 jours de formation par année. Et finalement, jusqu'au 31 mars prochain, ces fonctionnaires se sont vus dire que les dépenses supplémentaires dans la formation sont prohibées.
Donc déjà 2 jours, on s'entend que c'est pas beaucoup, là.
Non, c'est déjà pas énorme, mais là, ça va réduire davantage.
Et puis, ben c'est ça. En tout cas, l'autre nouvelle, ouverture d'inscription à l'Assemblée mondiale en éducation et en formation des adultes. Et ça a lieu ici même, à Montréal, bientôt.
Oui, tout à fait. Ça a lieu donc du 11 au 14 juin 2015, donc de cette année, à l'Université de Montréal. C'est l'ICEA qui organise, en collaboration avec le Conseil international pour l'éducation des adultes, cette Assemblée mondiale. On attend à peu près 500 personnes de partout dans le monde. Et les ateliers, on commence à inscrire des ateliers et justement les personnes qui veulent participer à la 9e Assemblée mondiale peuvent dorénavant s'inscrire.
Oui.
Ils peuvent le faire en allant sur le www.waam2015.org. Sinon, vous allez sur le site de l'ICEA et vous trouverez l'hyperlien pour y aller. Alors, je rappelle que les frais d'inscription sont de $300 au tarif régulier, mais que des tarifs réduits sont aussi consentis aux membres de l'ICEA, ainsi qu'aux organisations qui donnent une commandite à l'ICEA pour l'Assemblée mondiale. Alors, à bon entendeur, salut, si vous voulez assister et nous aider, ça nous fera plaisir. Alors, les propositions d'ateliers de forums pour l'Assemblée mondiale, comme je disais tout à l'heure, continuent d'arriver. Ouais. Ça s'inscrit petit à petit, ce qui fait que la programmation est en cours de préparation. Et les personnes inscrites recevront au cours du printemps un message pour les inviter à désigner leur choix d'atelier. Donc voilà, je rappelle aussi quand même que cette Assemblée mondiale se fera en français, en anglais et en espagnol.
Oh, trilingue. Rien de moins. Un appel à la candidature maintenant pour les prix Bernard Normand, Fondation Desjardins pour la région de Montréal. Qui est Bernard Normand, tout d'abord?
Bernard Normand, ce fut un ancien directeur de l'ICEA qui a beaucoup fait justement pour instaurer la Semaine québécoise des adultes en formation, aujourd'hui disparue malheureusement, voilà, victime d'austérité. Mm-hmm. Et c'était quelqu'un qui croyait beaucoup à la valorisation des adultes. Donc nous sommes allés voir à l'ICEA, nous sommes allés voir la Fondation Desjardins, qui décerne déjà des bourses à des étudiants. On les a sensibilisés à la question des adultes apprenants qui ont un parcours atypique, souvent semé d'embûches. Oui. C'est vraiment pas facile. Et on a passé un accord pour pouvoir accorder dans toutes les régions du Québec 2 bourses de $500 chacune à des adultes apprenants qui se sont démarqués par leur persévérance et leur courage dans la poursuite de leur formation. Je rappelle que les candidatures peuvent être présentées en français et en anglais et que les personnes intéressées peuvent le faire jusqu'au 11 mai, 17h, en remplissant le formulaire de candidature qui se trouve à l'adresse web de l'ICEA, www.icea.qc.ca.
Là, on parle du 11 mai, mais pensez-y tout de suite. Là, notez-vous-le quelque part pour ne pas oublier la date fatidique. Un autre appel de candidature pour terminer.
Oui.
Et ce sera en lien avec l'entrevue de tout à l'heure où on va parler de décrochage, de raccrochage, etc. pour la bourse Jeune Raccrocheuse de la FAE.
Tout à fait. La FAE, c'est la Fédération Autonome de l'Enseignement. Et depuis 2014, ils ont lancé cette bourse quand même d'un montant de $2000. Ce n'est pas rien.
Ce n'est pas rien.
Qui vise à reconnaître les efforts exceptionnels d'une jeune femme qui poursuit ses études afin d'obtenir un diplôme d'études secondaires ou d'études professionnelles. La FAE, et c'est, je trouve que c'est une très bonne idée, veut ainsi souligner et mettre en relief la réalité des jeunes décrocheuses et les conséquences économiques à long terme que cela peut avoir.
Tout à fait.
Donc, je vous invite, la date limite pour déposer une demande est le 19 avril 2015, donc ça vient vite. Mm-hmm. C'est dans un peu plus d'un mois. Et pour postuler, je vous invite à aller sur le site de la FAE, donc www.lafae.qc.ca/je-raccroche.
Donc, lafae.qc.ca et de là, je raccroche.
Vous
allez pouvoir le trouver sans trop de problèmes. Emmanuel Béguineau, chargé de projet à l'ICEA, merci beaucoup.
Merci, Guillaume.
Dans quelques instants, entrevue en compagnie de Mélanie Marcellet, qui est directrice générale du regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage. Non seulement un bon exercice pour retenir son souffle, l'entrevue s'en vient. Merci d'être avec nous et restez là. CIBL reçoit pour un Québec apprenant se poursuit à l'antenne de, vous l'aurez deviné, CIBL, Guillaume Touzel-Bande, toujours avec vous. Et bon, à pour un Québec apprenant, évidemment, on aborde les thèmes d'éducation des adultes, de la formation continue, mais encore faut-il ne pas décrocher lorsqu'on est plus jeune. Et avec moi en studio, Mélanie Mercelet, qui est directrice générale du regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage. Merci d'être avec nous.
Merci, Guillaume.
Ça fait plaisir. Le décrochage, bon, ça arrive évidemment pas du jour au lendemain. C'est un processus qui va faire en sorte que la personne décroche malheureusement, mais il y a des antécédents qui sont derrière, il y a des événements qui arrivent qui font en sorte qu'il y a cette résultante-là, finalement.
Tout à fait, tout à fait. Le décrochage scolaire est effectivement un processus qui s'explique par de nombreux facteurs, qui est très complexe, en fait, parce que ça peut survenir avec un cumul de facteurs, un cumul de difficultés, d'échecs aussi répétés, si on parle d'échecs scolaires, un vécu socio-scolaire dans la cour d'école avec l'intimidation, ça peut ne pas aider, des facteurs personnels, des facteurs familiaux, l'environnement aussi de l'enfant, de la famille. Mais on le voit, hein, il y a quand même des liens directs assez important entre le niveau socio-économique de la famille et le décrochage. Ça, c'est quand même une des pistes, ce qui fait qu'on prend des mesures particulières dans les milieux plus défavorisés afin de contrer le décrochage. En fait, le décrochage, il se situe, comme je vous le disais, à différents niveaux. Mm-hmm. Ça peut être auprès de l'enfant de 7-8 ans, déjà. Bon, on voit aussi en amont, avec l'éveil à la lecture, à l'écriture, déjà, là, on est vraiment en prévention. Mais on va voir aussi auprès des jeunes 7-8 ans, quand ça fait déjà plusieurs difficultés dans une petite vie d'enfant auxquelles on fait face à la première année, à la deuxième année. Il y a déjà là quand même un cumul important non négligeable.
On peut se douter, là, il y a des petits drapeaux d'alarme, si on veut.
Tout à fait, tout à fait. C'est sûr qu'à ce moment-là, on peut prendre des mesures de soutien scolaire. Il y a énormément de services mis en place. Toutefois, pas suffisant. Hein. On manque largement de professionnels dans les écoles, que ce soit au niveau de l'orthophonie, de l'orthopédagogie ou autre acteur très important. Ça peut être aussi au niveau de la transition du primaire au secondaire, oui. Où est-ce qu'il y a un cumul de stress chez l'élève. Des fois, ils sont plus ou moins bien préparés. Tous les changements aussi dans l'enfant, dans le jeune qui se passe en lui, dans
hormonaux,
sa vie et tout.
Hormonaux, appelons
voilà.
ça comme ça.
Alors, beaucoup de choses. La construction identitaire, alors c'est pas facile, tout. Et bien évidemment, au secondaire, d'autres problématiques qui finalement, des fois, c'est des problématiques qui ont évidemment un enracinement beaucoup plus beaucoup plus en amont, mais qui se sont agrandis. On parle de fossés souvent entre que ce soit les objectifs à atteindre à la fin du primaire et bon, il y a tout un fossé qui s'agrandit entre les objectifs à atteindre et les acquis, mais aussi énormément de dimensions autres avec les relations avec les pères, les relations avec les enseignants, la violence familiale, une augmentation des problèmes d'anxiété, de stress, voire de santé mentale. Certainement un problème aussi de surdiagnostic dans beaucoup de cas.
C'est des trucs affectifs qui vont faire en sorte que l'estime de soi du jeune, de la jeune, va descendre et que ça peut mener à ça. Je trouve pas... Par contre, je trouve ça important de mentionner, puis on en a déjà discuté auparavant, que évidemment, il y a des pistes, il y a des indices qui vont peut-être nous laisser croire qu'il peut y avoir décrochage, mais il n'y a pas de recette magique non plus. Là, c'est pas un parcours qui est linéaire.
Tout à fait. C'est quelque chose qu'on considère important dans le milieu communautaire, de prendre le jeune dans sa globalité et puis dans son projet aussi. On le sait, bon, le décrochage, c'est une problématique dans une société quand même. Mais ce n'est pas la diplomation et l'éducation d'un jeune ne se veut pas nécessairement de manière linéaire. Alors, il faut laisser place à des alternatives pour que ces jeunes-là qui ne trouvent plus leur place, des fois c'est à un certain moment très spontané dans sa vie, il ne trouve plus sa place à l'intérieur du milieu scolaire, à l'intérieur de l'école. Alors, ce n'est pas de jeter la pierre à quiconque, c'est tout simplement de considérer ça et de revoir comment on peut remettre le jeune en projet.
Ouais.
Ou de l'appuyer dans son nouveau projet, en favorisant évidemment un éventuel retour à l'école en formation parce que la formation, l'éducation est quand même la pierre angulaire d'une société en santé à tous les niveaux, pas seulement économiquement, évidemment.
Ben, évidemment, c'est ça. Des fois, la prévention ne suffit pas. Il y a des crochages et là, on souhaite le raccrochage. Avant de parler du, malheureusement, très trop peu de ressources en ce sens-là, rapidement, là, où en est-on par rapport à la situation du décrochage au Québec? Est-ce qu'il y a une amélioration en ce sens? Est-ce qu'il y a moins de décrocheurs qu'il y en avait auparavant, par exemple?
On s'améliore. Il y a eu une importante mobilisation depuis 2009 avec la sortie du rapport de M. Ménard, Savoir pour agir. Excusez-moi, en tout cas, c'est le rapport de 2009 avec le rapport fait par M. Ménard, son équipe, le groupe d'action. Et il y a eu toute une mobilisation aussi depuis de nombreuses années, hein, depuis les années 80 avec les organismes communautaires et tout ce travail-là qui a été fait alentour de l'école, parce qu'on le sait, l'école ne peut à elle seule atteindre l'objectif de la réussite scolaire pour tous les élèves.
C'est un travail d'équipe qui inclut une multitude d'acteurs.
Tout à fait. Et là, on a fait des pas de géant quand même, de très belles collaborations qui se sont créées entre le milieu scolaire et le milieu des organismes communautaires, parce qu'il faut dire qu'au Québec, il y a énormément, encore une fois, pas assez, mais il y a des groupes communautaires et il y en a qui sont... avec une mission de lutte au décrochage. Ça, bon, ils sont pas... Il y en a 33 financés par le ministère de l'Éducation, mais au regroupement, on en représente 58 qui ont une vocation vraiment de lutte au décrochage auprès des jeunes de 6 à 20, 24 ans. Alors... c'est dire qu'on s'est donné des outils, il y a une mobilisation, il y a une sensibilisation du public, mais évidemment, les conditions pour soutenir la réussite scolaire des jeunes, mais on l'a vu avec toutes les coupures dans le milieu des commissions scolaires, dans le milieu des écoles, le manque de ressources, mais aussi dans la fragilité des organismes communautaires. Les organismes communautaires du secteur de l'éducation jeune sont largement sous-financés et sont certainement les acteurs de première ligne les plus près de l'école et souvent vraiment un filet entre l'école, la famille, le jeune, parce que l'école, l'éducation du jeune, ce n'est pas simplement à l'école et dans la famille, il faut tout un réseau pour soutenir ce jeune-là.
Ah, bien évidemment.
Dans la rue.
Moi, j'aimerais appuyer les propos de Mme Marsollet parce que justement, les centres d'éducation des adultes et sont aussi dans les commissions scolaires et ils souffrent également effectivement de ce manque de financement.
Ce manque de financement qui crée un climat d'incertitude qui est certainement pas agréable pour tous les acteurs du milieu.
Finalement. Et où on accueille, je dois le dire, aussi les jeunes qui, à partir de 16 ans, ont décroché également du système traditionnel d'éducation de base.
Justement,
ce décrochage qui est... la situation s'améliore, il ne faut pas prendre ça pour acquis pour autant que ça va demeurer ainsi, mais peut-être qu'il est temps de se concentrer sur le raccrochage aussi des personnes qui quittent l'école. Comment on fait? Il n'y a pas de formule magique là non plus, mais pour le processus de faire en sorte que quelqu'un se raccroche au système d'éducation, comment ça se trame dans le fond?
Mais alors pour le raccrochage, je peux vous rassurer tout de suite, ça c'est certainement la meilleure des nouvelles parmi les moins bonnes. non, mais c'est une très bonne nouvelle. En termes de raccrochage, le Québec, si on est des champions, malheureusement, dans le décrochage, en se comparant aux autres provinces du Québec, on est aussi les champions en raccrochage. Alors, le taux de retour à l'école de diplomation chez nos jeunes, lorsqu'on étire jusqu'à 24, 25 ans, alors là, franchement, c'est chapeau, c'est de dire qu'on a des mesures en place qui permettent ça aux jeunes. Toutefois, ces mesures-là, surtout les structures, c'est vraiment au niveau des structures administratives, elles n'ont pas nécessairement la souplesse et l'accompagnement adapté pour faciliter le retour des jeunes.
C'est ça, on parlait de parcours atypique qui mène au décrochage, mais on peut deviner que le parcours est atypique pour mener au raccrochage aussi, et il y a une rigidité des structures et des mesures disponibles pour le moment.
Tout à fait, parce que si on se dit champion, mais bien sûr, mais quand même dans la vie des jeunes, si on peut permettre aux jeunes de raccrocher à l'école beaucoup plus tôt qu'à 22, 23, 24, 20, voire 25 ans, je veux dire, ça serait quand même plusieurs années dans sa vie qu'il n'est pas là, malheureusement, un peu à errer, à se chercher parfois, et puis à ne pas trouver sa place.
Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile en vieillissant, par exemple?
Oui, évidemment, Madame Béguineau tout à l'heure l'abordait avec le décrochage des filles, parce que ça, oui. On voit que c'est plus facile de raccrocher. Alors là, il faut faire une distinction très importante, c'est que ce n'est pas du tout la même chose entre les garçons et les filles. Les garçons raccrochent beaucoup plus facilement les jeunes filles, les jeunes femmes. Et, alors là, il y a toute une autre dynamique. Souvent, ils sont responsables, uniques responsables d'une famille lorsque les enfants et tout. Alors, c'est de dire que quand ces jeunes femmes-là raccrochent, ce n'est pas tout simplement d'aller s'inscrire au centre d'éducation aux adultes à côté, mais il faut absolument qu'il y ait, pour faciliter leur retour à l'école, tout un soutien à l'entour d'elles qui va pour donner l'accès, le soutien scolaire quand ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié. Souvent, c'est des gens aussi qui ont pas des acquis solides. Alors, il faut toute une équipe à l'entour de ces personnes-là pour soutenir tant au niveau académique qu'au niveau de la vie sociale, pour toute la réorganisation que ça engendre. Et puis aussi, ça fragilise hein, quand même. C'est un investissement. Ouais. C'est souvent des familles, des jeunes mères... qui ont déjà une situation précaire économiquement, alors de retourner à l'école, c'est faire le choix souvent de ne pas retourner au travail. Mmh. Alors, vous voyez, qui peut se permettre de ne pas travailler, de subvenir aux besoins d'une famille, c'est quand même confrontant. Alors, on a, par exemple, à Hochelaga-Maisonneuve, peut-être vous le connaissez, l'organisme Petit Rêve DEC, qui est un organisme, justement, qui a développé une belle expertise à ce sujet-là, qui travaille avec des jeunes mères qui se remettent en projet et qui les accompagnent là-dedans.
J'aimerais mentionner d'ailleurs un autre organisme aussi qui fait ça, qui s'appelle Maman va à l'école, et qui est présent à Trois-Rivières et maintenant en Gaspésie, et il y a sûrement d'autres chapitres qui vont s'ouvrir ailleurs dans la province.
Je peux d'ailleurs vous mentionner qu'il en sera question un brin pendant le reportage d'Alexis Gacon tout à l'heure de cette initiative-là. le ministère de l'Éducation compte sur les centres d'éducation aux adultes quand on vient à retourner dans le système, entre guillemets, si on veut, mais entre ça et le secondaire, il pourrait y avoir autre chose, finalement, qui serait mieux adapté à des décrocheurs qui ont 16 ans, par exemple.
Ben oui, en fait, ben, c'est sûr que c'est d'agir beaucoup en prévention, parce que déjà, quand le jeune a des difficultés, a un taux d'absentéisme, parce que souvent, il ne faut pas oublier, le jeune décrocheur, administrativement, on le sait très tardivement qu'il a décroché, hein, parce que souvent, le taux d'absentéisme est assez faramineux.
Ouais.
Alors, ça réfère à une autre problématique, c'est que ces jeunes-là qui ne se présentent plus à l'école sont de plus en plus isolés et invisibles. Ils sont souvent dans leur chambre, dans leur salon, ils ne sont plus nécessairement à traîner comme on aurait pu voir avant à certains endroits plus populaires. Alors, ils sont de plus en plus difficiles à rejoindre, mais les ressources sont largement insuffisantes à ce niveau-là, parce qu'un parent, un parent qui travaille, forcément, ne sait plus quoi faire avec son jeune qui reste à la maison et pour l'obliger. Et c'est là d'où l'importance des organismes communautaires en lutte au décrochage.
Qui vont essayer d'aller les chercher,
finalement. De prendre le relais dans une perspective des ramener à l'école, pas dans une perspective, et de développer leur... De développer surtout leur plein potentiel, de les remettre en projet, parce que c'est une chose de vouloir qu'ils retournent à l'école, mais il faut comprendre aussi que souvent ils ont été écorchés. Alors, c'est des écorchés vifs par leur vécu à l'école. Alors, on n'est pas pressé, hein. Mm-hmm. C'est tout simplement de les remettre en projet et puis d'entrevoir quel est leur potentiel, de leur en faire prendre conscience et de se projeter dans l'avenir.
Et alors, cette remise en projet-là, il faut la faire comme il faut, et il faut s'y appliquer, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on veut éviter, c'est du redécrochage de quelqu'un qui remet un pied dans le système, et comme les structures sont mal adaptées, qui vont finir par en ressortir, et là, y retourner une autre fois, on peut oublier ça pratiquement.
Le système des centres d'éducation aux adultes était initialement fait pour de la formation continue ou de la formation à des adultes qui ont déjà une vie organisée, stable. C'est pas fait avec un support pour accompagner des jeunes qui ont souvent... mais qui ne se lèvent plus nécessairement le matin depuis nombreux mois pour aller à l'école, alors qu'ils ont une routine quand même toute chamboulée. Ça nécessite quand même une certaine organisation, mine de rien, aller à l'école. Hein, quand on le fait plus, c'est là qu'on s'en rend compte. Et une organisation dans ses rapports, dans son scolaire aussi. Alors, c'est pas simplement d'accompagner le jeune en termes de raccrochage, mais c'est dans le post-raccrochage aussi. Alors, il faut, pour assurer le taux de rétention dans le retour à l'école, il faut qu'il y ait l'organisme aussi assure une continuité. Et tout ça se fait évidemment en collaboration avec l'école, le jeune et la famille. Parce que les parents, faut pas s'y méprendre, même à 16 ans, à 17 ans, les parents sont souvent bien présents et bien préoccupés de la réalité de leurs jeunes et ils veulent trouver des solutions.
Et heureusement qu'ils sont là aussi. Le temps file dangereusement. On en a glissé un mot tantôt. Justement, cette incertitude économique qui fait en sorte que ça pourrait avoir des impacts sur le décrochage. Dans votre cas, pour le moment, on est relativement épargné, mais vous vouliez parler de l'aide aux devoirs, qui est quand même un facteur extrêmement important.
Oui, l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs qui n'est pas à proprement parler que de l'aide aux devoirs, qui est davantage un soutien scolaire. Alors, c'est vraiment la revision des notions académiques que les enfants, souvent au niveau du primaire et parfois au niveau du secondaire, accumulent, comme on disait tout à l'heure, un retard académique. Alors, des choses qu'ils n'ont pas compris en classe, qui n'ont pas le temps de réviser, de s'approprier. Des jeunes qui ont plus d'estime, qui ont une très faible estime de soi, qui en ont pas plus beaucoup. Des jeunes qu'on veut maintenir motivés pour l'école et qui doivent surmonter énormément de défis ou de difficultés. Alors, c'est dans ce rapport-là qu'on travaille avec ce qu'on appelle l'aide aux devoirs, qui est en fait une enveloppe budgétaire. C'est pour ça qu'on prend le raccourci de dire aide aux devoirs.
Ouais.
Et cette enveloppe-là, bon, maintenant, on peut dire qu'elle n'a pas été coupée, mais elle a été intégrée à une enveloppe globale qui aussi, vous allez voir, avec les petits déjeuners. Alors, maintenant, c'est de demander à une école de faire le choix entre à offrir un petit déjeuner à un enfant ou le soutenir dans sa réussite académique. Alors, vous comprendrez que c'est un choix quand même, mon Dieu, qui ne peut se faire sans grand coût, grande conséquence. Là. Alors, c'est vraiment de revoir ensemble tous les acteurs, de s'assurer qu'on a un soutien dans une approche globale et sur le long terme, le développement. Une mobilisation de beaucoup d'acteurs dit aussi beaucoup de gens qui viennent soutenir l'éducation avec des très beaux projets, mais qui, malheureusement, des fois, n'offrent pas un soutien global à l'enfant, ce qui fait qu'il n'y a pas un travail en profondeur auprès de l'enfant et de sa famille et de toutes les relations qu'il y a entre le rapport à l'apprentissage, le vécu scolaire de l'enfant à l'école et tout.
Donc,
alors, il faut que, bon, nous, c'est sûr, on le requelde, on interpelle le ministre Blais, le nouveau ministre de l'Éducation, pour que dans sa prochaine politique qu'il a annoncée en persévérance scolaire, il puisse nous inviter à s'asseoir avec lui à ce qu'on puisse contribuer pleinement pour ne pas exclure aucun jeune, qui sont vraiment les jeunes les plus vulnérables.
Ouais.
C'est ceux-là que maintenant on veut aider.
Donc, comme on en a parlé avec Emmanuel, il sera interpellé, ce nouveau ministre. C'est le moins qu'on puisse dire. Mélanie Marcellet, directrice générale du regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Dans quelques instants, CIBL reçoit pour un Québec apprenant se poursuit. Donc, restez avec nous et merci d'être là. CIBL reçoit pour un Québec apprenant se poursuit à l'antenne de CIBL. Guillaume Touzelband avec vous et avec plaisir à part ça. On a parlé avec Mélanie Marcellet sur la scène provinciale. On va se déplacer du côté national maintenant. Il y a bientôt un an, en avril 2014, le gouvernement conservateur concluait avec les provinces et territoires un nouvel accord de 6 ans sur la formation de la main-d'œuvre intitulé le Fonds canadien pour l'emploi ou FCE. La mise en œuvre, elle a commencé pendant l'été et le syndicat canadien de la fonction publique, en fait, a demandé à une experte conseil en apprentissage, alphabétisation et en main-d'œuvre, Bridget Hayes, de se pencher sur les répercussions et les lacunes de ce Fonds canadien pour l'emploi. La conclusion, en quelque sorte, il y en a plusieurs, mais le Fonds canadien pour l'emploi de Stephen Harper serait donc un recul pour les travailleurs les plus vulnérables. Et pour en discuter, on rejoint au téléphone en direct d'Ottawa la coordinatrice par intérim du programme en alphabétisation du syndicat canadien de la fonction publique, Laurence Buener. Bonjour.
Bonjour, M. Touzelbond.
Merci d'être avec nous. Laurence, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'étais curieux, en fait, de savoir comment ça se fait que le syndicat canadien de la fonction publique s'intéresse aux enjeux d'alphabétisation, d'éducation aux adultes. C'est quoi le lien, en fait, avec le syndicat?
Ah ben, pour le syndicat, tous les travailleurs ont un droit à l'éducation. Ils ont le droit de suivre les formations dont ils ont besoin pour effectuer le meilleur travail possible. Et vous savez que l'alphabétisation, ça aide les personnes non seulement à réussir au travail, mais aussi dans la vie en général. Hein. La dernière grande enquête internationale sur l'éducation des adultes qui date de 2013, elle a montré que globalement, les niveaux d'alphabétisme des Canadiennes et des Canadiens restent les mêmes et que donc, il y a une grande partie de la population qui a des difficultés qui sont liées à ces niveaux.
Et c'est...
On a... on vit dans un monde où les ordinateurs ont changé la façon de travailler.
Tout
le monde communique par courriel. Donc, les besoins de formation et de perfectionnement sont importants à tous les niveaux.
Ils sont importants et ils peuvent avoir des conséquences positives pour les gens qui font ces formations-là. Ça sert à obtenir, par exemple, une promotion, un meilleur emploi, un meilleur avenir, carrément.
Oui, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier que l'alphabétisation, c'est aussi un moyen très efficace d'inclure, de faire participer les personnes au niveau social, hein. Mmh. S'impliquer dans la communauté ou aller voter. C'est des choses qui sont importantes pour un syndicat.
Laurence Bionnaire, on discute du Fonds canadien pour l'emploi, mais bon, avant de le critiquer comme le syndicat l'a fait, il faut le comprendre. En quoi ça consiste? Comment on pourrait résumer les grandes lignes?
Ben oui. Alors, le Fonds canadien pour l'emploi, il remplace ce qui s'appelait les ententes sur le marché du travail, hein, qui avaient été signées en 2007 parce que le gouvernement fédéral voulait que les provinces et territoires s'impliquent un petit peu plus dans la formation de la main-d'œuvre. Mmh. Donc, ça a été signé en avril 2014 par tous les provinces et territoires, sauf le Québec, parce que le Québec dispose déjà d'un système qui lui permet une plus grande implication des employeurs dans la formation. Donc, eux sont restés sur les accords des ententes sur le marché du travail. Tous les autres ont signé donc ce nouveau pour le nouveau Fonds canadien pour l'emploi.
Le Québec fait exception. On dirait que j'ai déjà entendu ça quelque part.
Oui, c'est ça. Donc, apparemment, il était suffisamment bien outillé. En tout cas, il a mm-hmm. été considéré que le Québec était suffisamment bien outillé. Au niveau de ce qui change pas, hein, c'est les mêmes sommes annuelles, c'est 500 millions de dollars qui sont transférés
oui.
aux provinces. Le but de ce fonds, c'est de créer une main-d'œuvre solide, résiliente et adaptable. Et là, je vous cite le texte. Il requiert la participation des employeurs pour que les compétences soient mieux arrimées aux occasions d'emploi. Là aussi, je vous cite le texte. Mmh. Donc, ça a commencé à être mis en place au cours de l'été, le 1er juillet. Alors, comment il fonctionne ? Les transferts doivent être investis dans un des trois volets du fonds. Il y a la subvention canadienne à l'emploi, il y a la formation parrainée par les employeurs et il y a le soutien et service à l'emploi.
Oui.
La subvention canadienne, c'est le premier volet. D'accord, elle vise à inciter les employeurs à prendre les commandes dans le domaine de la formation. Alors, comment elle fonctionne? L'employeur choisit quels employés ont besoin de formation ou quelles personnes sans emploi il pourrait vouloir embaucher après leur formation. Il va passer un contrat avec une tierce partie qui, elle, va offrir la formation. Donc, ça peut être un collège communautaire, des collèges privés de formation professionnelle. Mm-hmm. Ça peut être des centres de formation syndicaux ou des associations, etc.
Et ça, c'est un des éléments.
Aussi...
Oui, allez-y.
Oui, pardon.
Non, allez-y.
Il y a aussi, sous certaines conditions, des fabricants d'équipements ou des développeurs de logiciels qui sont admissibles à donner des formations. Alors, ils peuvent dépenser, donc les employeurs, ils peuvent dépenser jusqu'à 5 000 $ par apprenant, pour lequel ils recevront un montant de 10 000 $ maximum. Donc, c'est un tiers pour l'employeur et deux tiers à la charge du fonds. Mmh. Le deuxième volet, ça concerne la formation parrainée par l'employeur. C'est le volet en fait qui a permis aux provinces et aux territoires de conserver leurs programmes existants et ils se sont battus okay. Pour arriver à les conserver. Et le troisième volet, ben, c'est le volet qui préserve un petit peu l'esprit des ententes sur le marché du travail parce que les bénéficiaires qui sont admissibles sous ce volet-là, c'est ceux qui l'étaient sous les ententes, c'est-à-dire les personnes qui sont sans emploi, qui ne sont pas bénéficiaires de l'assurance emploi, ou les personnes qui occupent un emploi mais qui sont peu qualifiées.
En effet, alors, et ça, c'est justement un des trucs qui, dans le rapport du SCFP,
oui.
revient, le fait que ça aurait été, c'est une évolution en quelque sorte, on est passé d'une entente à une autre, et puis ça aurait été le moment de ce changement de structure, de pallier à certains aspects qu'on aimait moins du côté des ententes sur le marché du travail, entre oui. autres l'aide à ceux qui sont les plus vulnérables, justement.
Oui, mais il faut savoir que c'est le volet dont le montant est le plus petit, hein, mm-hmm. et qui va diminuer considérablement au cours des années, au cours des 6 années. Alors, c'est sûr que le Fonds canadien pour l'emploi, c'est pas la panacée pour les personnes les plus vulnérables, hein. C'est celles qui ont sans doute le plus à perdre par rapport à ça. Donc, ce que je vous disais, les personnes sans emploi, celles qui sont pas admissibles, il y a peu de mesures incitatives qui encouragent les employeurs à former des personnes qu'ils n'emploient pas.
Non, tout à fait, c'est ça. C'est le mot danger n'est peut-être pas le bon, mais il y a un certain risque quand même. Il y a énormément de responsabilités qui sont entre les mains des employeurs. Le choix leur revient, et puis ça fait en sorte que certaines personnes peuvent être complètement écartées du portrait.
Tout à fait. Puis les groupes communautaires des domaines de l'alpha et des services à l'emploi ne peuvent pas non plus offrir de formation telles qu'elles ont été définies dans la subvention canadienne. Alors, en Ontario, par exemple, il y a certains des groupes qui vont recevoir des fonds provinciaux pour sensibiliser la communauté des affaires. Donc, c'est comme un twist sur leur mission de départ. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi plusieurs provinces qui s'étaient servies des fonds des ententes sur le marché du travail pour soutenir leurs groupes communautaires. Et je sais que l'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont indiqué qu'ils allaient prolonger, en fait, ce soutien cette année et l'année prochaine. Mais bon, sur le terrain, c'est ce que les groupes constatent déjà au fur et à mesure que ça se met en place le processus, la demande de formation pour les personnes sans emploi est très 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 faible.
Oui, c'est ça. On se rend compte que dans le concret, dans l'application de tout ça s'articule pas aussi bien qu'on le croyait au départ. Bon, une entente qui a été conclue donc en avril 2014, ça a commencé à être appliqué cet été et en ce moment, encore aujourd'hui, il y a encore dans certains coins du pays où on n'a même pas encore annoncé au grand public comment ça allait être appliqué. Donc, il y a déjà du retard.
Oui, c'est vrai qu'il y a certaines provinces qui ont du retard, mais quand même, la plupart offrent des explications sur le fond et des formulaires de demande en ligne.
Puis, c'est un autre truc que vous avez mentionné un peu plus tôt, que pour l'instant, il n'y a pas vraiment, il y a très peu de demandes, en fait, et d'applications, dans le fond, pour les ressources du fonds. Et ça, il y a un grand risque relié à ça, quand même, si on ne va pas chercher ces sommes-là.
Oui, c'est clair que ça, c'est une des choses qui était soulignée par Bridget Hayes dans ses rapports. Hein. C'est que toutes les sommes qui ne sont pas utilisées doivent être remboursées. Alors, c'est sûr que comme le processus a mis pas mal de temps à se mettre en place, on sait, nous, sur le terrain, que certains ministères sont en mode panique. Hein. Il n'y a pas assez d'employeurs qui ont fait des demandes pour pouvoir avoir du financement. Donc, ce qui veut dire que l'année prochaine, la province pourrait avoir à gérer trop de demandes par rapport au fonds dont elle va disposer.
Donc,
parce qu'elle aura dû en rembourser une partie.
Mm-hmm. Et pourtant, dans les accords précédents, les fonds pouvaient être reportés, les fonds non dépensés. Et là, ça, c'est donc une des grandes différences d'un accord à l'autre.
Oui. C'est vrai. Les fonds pouvaient être déplacés.
Ça fait quand même une énorme différence. Dans le rapport de Bridget Hayes, au final, on dit que c'est carrément un recul qui nous ramène en arrière jusqu'en 1996. Donc, c'est quand même pas rien.
Oui. Ben, ce qui a changé, c'est que le financement sur les ententes sur le marché du travail, il visait les personnes, qu'elles soient en emploi ou qu'elles soient sans emploi. Et les programmes étaient conçus et étaient offerts directement par les provinces et les territoires. On accordait une priorité importante aux groupes comme les autochtones, les femmes, les personnes qui étaient handicapées, les immigrants. Et dans le cas des personnes qui étaient en emploi, on focusait sur celles qui étaient peu qualifiées, qui avaient de faibles niveaux d'alphabétisme. C'est plus le cas du tout. Un employeur, maintenant, décide qui va bénéficier d'une formation. Donc, l'employeur peut très bien décider de faire bénéficier seulement ses cadres.
Oui. Laurence Buinard, en terminant, parce que le temps nous glisse entre les doigts, ce n'est pas vraiment une surprise d'arriver à cette conclusion. Le rapport de Bridget Hayes n'en est qu'une autre preuve, mais l'éducation des adultes, ce n'est pas vraiment une priorité fédérale. Pourquoi est-ce qu'elle devrait l'être?
Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, on a besoin de plus de compétences qu'il y a 20 ans pour pouvoir fonctionner dans toutes les situations de la vie quotidienne, pas seulement au travail, mais d'une façon générale. Hein, donc, l'enquête de 2013 montrait que les environnements numériques sont maintenant présents à tous les niveaux et qui sont de plus en plus complexes. Hein, qu'on pense simplement à la façon dont on communique au travail, c'est des courriels.
Je suis journaliste et je me sens dépassé par la nouvelle technologie parfois.
Vous n'êtes pas le seul.
Exactement.
Donc les exigences qui sont liées à l'utilisation de l'écrit sont plus grandes au travail et ailleurs. Et très probablement que le niveau de compétence qui va être nécessaire pour pouvoir bien fonctionner va augmenter régulièrement avec les avancées technologiques à venir. Donc tout le monde a besoin de formation à un moment ou à un autre. Et si le gouvernement fédéral est concerné par l'emploi, il ne peut pas ne pas être concerné par la formation des adultes.
Et donc, ce rapport de Budgetaids, il est disponible sur le site web du Syndicat canadien de la fonction publique si
oui,
les auditeurs
absolument.
Veulent aller le lire. C'est quoi l'adresse du SCFP?
Alors, c'est www.scfp.ca.
Des adresses qu'on peut retenir facilement. C'est plaisant, ça?
Oui, hein?
Et de là, on va trouver les rapports en faisant une petite recherche.
Voilà.
Laurence Bionnaire, vous êtes coordonnatrice par intérim du programme en alphabétisation du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, M. Touzel-Bond.
CIBL reçoit pour un Québec apprenant se poursuit. Restez avec nous dans quelques instants. Un reportage de notre journaliste Alexis Gacon qui s'est rendu à la journée convergence de la formation générale des adultes du 27 février dernier à l'UQAM. Donc, restez avec nous. L'édition du 11 mars de CIBL reçoit pour un Québec apprenant tire à sa fin, mais ce n'est pas terminé. Le 27 février dernier, était organisée la journée Convergence pour la formation générale des adultes. L'objectif de l'événement, c'était de réunir autour de la table des chercheurs, des intervenants dans le domaine afin de faire émerger des pistes de solutions pour valoriser les centres d'éducation pour adultes qui sont souvent très méconnus du grand public et du monde politique carrément aussi. Pourtant, il y a près de 200 000 élèves ou apprenants qui fréquentent ces lieux-là. Donc, notre reporter Alexis Gacon a assisté à l'événement pour faire le point sur les principales évolutions qui sont souhaitées par les acteurs de la FGA au Québec. Voici son reportage.
La journée Convergence pour la formation générale des adultes a pris place en plein cœur des sciences de l'Université du Québec à Montréal. Chercheurs et intervenants se sont pressés à l'événement pour débattre de la situation de la FGA au Québec. Daniel Baril est agent de recherche et développement à l'Institut de coopération pour l'enseignement des adultes.
L'enseignement n'est pas fait par classe, est fait par cahier. Donc, dans une même classe, il y a des étudiants qui sont à différents niveaux. Ils vont faire, mettons, le cahier de maths secondaire 4. S'ils finissent en un mois, puis ils passent, ils ont fini. Après, le cahier de maths secondaire 5, si on finit, ils ont fini. Ça prend plus de temps, ça prend plus de temps. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enseignement individualisé. Les gens avancent à leur propre rythme par ce qu'on appelle des cahiers. Et ce n'est pas des cours magistraux par un professeur donné à l'avant dans un cours, mettons, maths secondaire 4 avec tous les étudiants au même niveau. Fait que c'est très, très différent sous cet angle-là que l'éducation des jeunes.
Les élèves qui franchissent la porte du centre d'éducation des adultes présentent des situations très variées.
Donc, trois grands profils. Les jeunes qui, à 16 ans, n'ont pas terminé, leur manque quelques cours. Ceux autour, grosso modo, de 20 ans qui ont décroché depuis quelques années et qui veulent, réalisent bien que ça prend un diplôme pour avoir un emploi, viennent le finir. Et des adultes beaucoup plus âgés qui, des fois, retournent, pas nécessairement pour finir un diplôme, juste pour avancer. Et on voit souvent des profils de retraités qui sont peu alphabétisés, veulent faire leur devoir avec leurs petits-enfants, donc viennent s'alphabétiser dans les centres, mais sans viser nécessairement le diplôme d'études secondaires.
Pour M. Baril, cette autonomie nécessite un enseignement plus individualisé.
L'approche individualisée demande un grand niveau d'autonomie de l'élève, mais ceux qui sortent secondaire, 16 ans, 17 ans, plus ou moins la tête aux études, végètent un petit peu, peuvent par eux-mêmes, le centre n'a pas les ressources pour les soutenir. Il n'y a pas les mêmes ressources aux adultes qu'aux jeunes de soutien pédagogique, etc. Donc ça, c'est une grande difficulté parce que ça présuppose que le jeune est tout à fait autonome, Mais souvent, ceux qui se retrouvent à l'éducation des adultes ont des problèmes, etc., donc ne sont pas autonomes. Fait que ça crée de passer quelqu'un d'un bout à l'autre de la chaîne de montage éducatif. Personne ne peut répondre, pas par la mauvaise foi des intervenants, par l'absence physique et matérielle de ressources.
Les objectifs budgétaires du gouvernement du Québec ne rassurent pas les acteurs de la FGA et le manque de ressources est au cœur de leur questionnement. Alec Larose est conseiller à la Fédération des syndicats de l'enseignement à la Centrale des syndicats du Québec.
Le problème principal, c'est un problème qui est à la source, c'est que l'enveloppe budgétaire, elle est fermée au départ. Donc, on établit arbitrairement un nombre d'élèves qui seront financiers et la réalité dépasse le financement. Donc, on va financer, par exemple, 55... en réalité, c'est, disons, 48 500 élèves et on va parfois atteindre 54 000. Donc, dans ce temps-là, il y a une espèce il y a un mécanisme qui ressemble à une machine à saucisses qui fait passer le financement pour un centre d'un nombre réel d'élèves et de besoins à un nombre théorique d'élèves et de besoins qui sont financés.
Devant le manque de locaux et de moyens, les élèves font la file pour obtenir une place sur les bancs d'école.
Si au secondaire ou au primaire, il y avait des listes d'attente, on apprenait que des jeunes ne peuvent pas aller à l'école parce qu'une liste d'attente, ça serait un scandale public. À l'éducation des adultes, ça se produit et personne n'en parle et personne s'y intéresse. Imaginez quelqu'un qui n'a pas de diplôme de secondaire 5, s'est repris en main, ça a pris du temps, s'est motivé, a frappé à la porte, est allé s'inscrire, puis après tout ce temps-là, s'est dit « ben je vais passer par-dessus peut-être la honte que j'ai de ne pas avoir de secondaire 5 et je vais aller le finir. » Tout ce boulot est fait, qui est précieux et qui est beaucoup de motivation, et se fait dire « ben vous êtes sur une liste d'attente. Cette personne-là, on l'a peut-être perdue définitivement. »
L'andragogie, l'action d'enseigner à un adulte, apparaît bien différente de la pédagogie. Pourtant, aucun diplôme particulier n'est nécessaire pour enseigner dans un centre d'éducation pour adultes, alors que l'on demande à ses enseignants de multiplier les fonctions.
On demande beaucoup aux enseignants d'être plus que des enseignants, d'être des coachs psychologiques, de faire du soutien, etc., etc. Et là, il y a une espèce, par manque de ressources, de tout mélanger. Et l'enseignant n'est pas formé pour faire du soutien psychologique de quelqu'un qui est en difficulté, qui a besoin de motivation, etc., etc. C'est un professionnel de l'enseignement. Il fait son métier, c'est d'enseigner. Et là, ce qu'on entendait ce matin, c'est de certains intervenants, c'est d'en mettre beaucoup sur les épaules des enseignants qui eux-mêmes sont en précarité d'emploi. On a entendu une statistique, plus de 80% des enseignants à la formation générale des adultes, dans les centres d'éducation des adultes, ne savent pas si l'année suivante, ils auront un contrat. Celui de 17-18 ans là, qui a eu de la misère au secondaire, qui a peut-être fait le party ou je ne sais pas quoi, ou celui qui à 20 ans revient et motive un enfant, veut vraiment terminer mais des situations de pauvreté difficiles, c'est pas de l'enseignement, c'est plus de l'enseignement. Là. On est sur le terrain du soutien psychologique, émotionnel, de l'intervention, du travail social à la limite. Et ça, c'est une profession, le travail social. T'sais, et l'enseignement, c'est une profession.
Madame Paula Duguay a lancé en 2009 l'organisme Maman va à l'école. Elle œuvre avec le monde communautaire pour tenter d'atteindre les mères qui souhaitent reprendre leurs études au sein des centres d'éducation pour adultes.
On a travaillé avec l'ICEAMP, avec un grand atelier de connaissances et de concertation entre les acteurs de l'éducation, avec les participantes, les mères apprenantes aussi, pour être capable d'identifier les problèmes, les obstacles et de trouver des solutions. On est parti par, si vous voulez, le début. Par la suite, on a offert des formations aussi. Je vous donne un exemple sur les compétences parentales, des informations aussi pour savoir comment on fait pour revenir à l'école. Et actuellement, nous avons développé aussi un programme de bourse pour aider ces mères. Il faut savoir que ces mères-là, qui sont désireuses de revenir à l'école, faire un retour aux études, elles ont un désir, elles ont une force tant sur le plan personnel que professionnel. On sait que sur le plan personnel, ça touche beaucoup leurs enfants.
Les outils de Maman va à l'école visent tout d'abord à créer une synergie d'acteurs pour soutenir les mères monoparentales.
Quand on donne une bourse à une maman, on sait bien qu'on ne peut pas payer une année scolaire. Mais le 500 $ qui lui est offert, très souvent, ce n'est même pas au niveau de l'argent que la maman réagit. Elle réagit avec beaucoup de reconnaissance pour Maman va à l'école en disant « Enfin, quelqu'un reconnaît que ce que je fais, ça vaut la peine ». Nous travaillons très, très fort pour que, et je vous donne ça en bref, une maman qui est à la maison, qui désire faire un retour aux études, puisse, d'un simple clic sur le mamanvalécole.org, avoir accès au chemin à parcourir. Je dirais sensibiliser les milieux scolaires au double rôle de ces mères-là. Elles ont un double rôle. Quand tu reviens à l'école comme maman, tu es étudiante et tu es parent. ton problème de garderie est le même, mais tu es seul à devoir leur relever le défi.
Pour Alec Larose, si le problème de financement ne date pas d'hier, c'est aussi parce que la formation générale des adultes n'est pas encore considérée par le pouvoir politique comme un acteur à part entière de l'éducation.
Le problème, c'est qu'en tant que tel, à l'échelle du réseau, il y a à peine une vingtaine de professionnels qui travaillent en service d'aide à l'apprentissage réellement. Le reste des quelques professionnels qui sont là, c'est des conseillers pédagogiques, des conseillers d'orientation, quelques travailleurs sociaux, des choses comme ça. Mais il manque énormément de monde, de gens, parce que ce n'est pas reconnu à sa juste valeur. On est encore à une vision un peu éducation populaire. Le milieu va s'auto-réguler et ils se débrouilleront simplement parce que on croit que simplement en offrant un mode d'apprentissage qui est différent, c'est-à-dire que les élèves ont un parcours très individualisé, ils vont suivre une démarche par module, des choses comme ça, de croire que ça suffit. Donc le contexte change, l'élève passe d'un style d'apprentissage à un autre et ça va l'aider, ce qui n'est pas faux. Ça va peut-être mieux répondre à certains besoins des élèves, mais il faut aussi de l'accompagnement, il faut aussi beaucoup de services, et ça, c'est pas là.
Il faut reconnaître que les centres d'éducation des adultes, c'est des institutions publiques d'enseignement. On sait c'est quoi une école primaire, on sait c'est quoi une polyvalente, on sait c'est quoi un cégep, on sait c'est quoi une université. Un centre d'éducation des adultes, c'est moins clair pour les gens, pourtant, c'est un établissement public d'enseignement à l'intérieur du système.
Un reportage d'Alexis Gacon pour CIBL Radio Montréal.
Donc, merci à Alexis Gacon pour ce reportage. Vous êtes toujours à l'écoute de CIBL Reçoit pour un Québec apprenant. Et on va terminer cette édition du 11 mars de la même façon qu'on l'a commencé, en compagnie d'Emmanuel Béguineau, chargé de projet à l'ICEA. Et Emmanuel, on a un peu le temps, donc rappelons cet appel de candidature. Et on en a parlé avec Mélanie Marcellet tout à l'heure pour la bourse jeune raccrocheuse de la FAE. 2000 $ quand même.
Oui, 2000 $, c'est quand même, c'est ce qui fait la différence dans un frigo, dans les droits de scolarité, dans la garde des enfants et ainsi de suite.
Qui peut être l'élément qui va motiver quelqu'un à retourner
tout
en se disant « j'ai ce coussin ».
Qui va permettre à cette personne qui est retournée sur les bancs d'école de persévérer et d'aller jusqu'au bout de son projet, comme disait Mme Marsollet, mettre en projet les gens. Carrément. Je pense que c'est important. Donc, la date limite, je le rappelle, c'est pour déposer votre candidature. C'est le 19 avril 2015. Si vous êtes un enseignant, n'hésitez pas à en parler à vos élèves qui sont à l'éducation des adultes.
Promouvoir cette bonne nouvelle,
tout
finalement.
Tout à fait, les jeunes femmes. Et pour ça, vous allez toujours donc sur le site de la FAE, de la Fédération autonome de l'enseignement.
La FAE.qc.ca/ je raccroche pour postuler. On parlait d'austérité, d'incertitude financière, de coupe. Donc, quand il y a de l'argent qu'on peut aller chercher, profitons-en et essayons de s'orienter vers ça. Petit mot rapide sur l'autre appel de candidature dont
on
a glissé un mot.
Oui, tout à fait. Et puis, voilà, merci d'ailleurs à la Fondation Desjardins, parce que c'est la deuxième année qu'on a une collaboration avec cette fondation. Et donc, je rappelle que ce sont deux bourses de 500 $ chacune, qui sont octroyés pour la région de Montréal comme pour les autres régions. Et ça s'adresse donc à des adultes qui ont un parcours atypique justement de formation, qui sont retournés sur les bancs d'école, que ce soit en formation professionnelle, que ce soit en alphabétisation, que ce soit en francisation, que ce soit pour un retour dans les centres d'éducation des adultes. Ils peuvent postuler anglais et français, j'insiste. On est en train de faire traduire justement le formulaire en anglais. Et donc, ils peuvent le faire jusqu'au 11 mai à 17h et vous pouvez vous procurer le formulaire de candidature à l'adresse web www.icea.qc.ca.
Emmanuelle Biguineau, chargée de projet, mais également grande collaboratrice de la réalisation de cette émission. Merci beaucoup.
Merci, Guillaume.
C'est comme ça donc que se termine l'édition du 11 mars de CIBL reçoit pour un Québec apprenant. Une émission, donc, vous l'aurez deviné, réalisée en partenariat avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Merci également à Mélanie Marcellet, Laurence Buener, à notre journaliste Alexis Gacon, Carlo Bellomo à la mise en onde, le magicien de la technique, je m'appelle Guillaume Touzelbon. Réalisation, animation, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. La prochaine édition de Pour un Québec apprenant, le 8 avril, lendemain de mon anniversaire, et je vous souhaite une excellente fin de journée à l'antenne de CIBN.